Vous savez que l'autre jour, je vous ai parlé d'encouragement. Encouragement face à la peur. Où est l'origine de la peur? Vous savez que dès que l'humanité s'est séparée de Dieu par l'orgueil, elle a connu la crainte de Dieu, mais toutes les craintes inimaginables qu'elle n'avait jamais pensé avoir. Et donc la peur prend les gens à la gorge ou au ventre. La peur existe souvent. C'est un phénomène humain qui est généralisé. Donc, il est évident que je vous ai parlé de tout cela. Je ne peux pas revenir sur ces points-là, quoique ça pourrait être amélioré, par exemple, dans une réunion de retraite au mois d'août, la deuxième semaine du mois d'août, à Gomery. Maintenant, il y a quelque chose qui est nécessaire, parce qu'il y a deux phénomènes humains qui habitent l'homme quand il est hors de Dieu, ou même quand il est chrétien parfois, quand il perd pied dans la foi, dans une foi vraiment vécue. Il y a bien sûr la peur, mais il y a aussi l'intérêt. L'intérêt est une motivation extrêmement importante qui s'accumule parfois, qui joue avec aussi la peur. Et nous allons prendre Genèse, chapitre 36, verset 6. Genèse 36, verset 6. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail, tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan. Il s'en alla dans un autre pays loin de Jacob, son frère, car leur richesse était trop considérable pour qu'elles demeurassent ensemble, et la contrée où elles séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Ésaü s'est établi donc dans la montagne de Séir. Ésaü, c'est Édom. Voici un phénomène historique dont ce sont les fils, bien sûr, d'Isaac et de Rebecca, une division à cause de la richesse. La richesse est bien sûr non pas la cause, mais c'est ce qui cache la véritable cause. Le manque d'amour, le manque de véritables relations fraternelles. La richesse est le motif qui amène la séparation. Ésaü s'en va dans un autre pays, loin de Jacob, son frère. C'est loin du cœur, surtout. Parce que c'est pas très loin au niveau kilomètre. C'est loin du cœur. C'est le père d'Édom. Et on sait que Édom va devenir une tribu très redoutable, très ennemie d'Israël et des rois d'Israël. Regardons dans 36, verset 43. Le chef Magdiel, le chef Hiram, ce sont là les chefs d'Édom. Selon leurs habitations dans le pays qu'ils possédaient, c'est là Ésaü, le père d'Édom. C'est une insistance, parce que Édom, les Édomites vont avoir un rôle extrêmement important, y compris dans l'avenir, dans un avenir rapproché. Alors, cette richesse était trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble. Je pense que c'est le beau prétexte. Regardons le phénomène à propos de Lot. Genèse 13. Genèse 13. Je dis cela parce que j'aborde ces sujets parce qu'ils sont fort importants. Les églises qui ont beaucoup d'argent, qui ont énormément d'argent, qui ont un patrimoine, court ce risque de vivre des divisions importantes. Surtout s'il y a des membres assez puissants, assez forts au niveau financier, et qui donnent un esprit de présomption, et il y a des clans qui se reposent non pas sur le fait de l'argent, mais l'esprit de présomption s'exprime à travers l'effet de l'argent. Genèse 13, versets 5 à 13. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs, des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, donc les montagnes arides, etc. Et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Il ne semble pas que ce problème, ce dernier verset, qui montre que c'est une société mauvaise, ait dérangé Lot. L'avenir prospère a attiré Lot, bien que la situation au niveau spirituel soit plus que douteuse. L'avenir prospère. Je dis tout cela et j'aborde toujours, parce que la prospérité et l'avenir prospère pour nos enfants, dans l'éducation qu'on leur donne, dans tout cela les pousse souvent à s'écarter des églises et à s'écarter des parents, surtout s'ils ont connu, les parents connus la pauvreté, ils espèrent que les enfants seront dans la prospérité au sens matériel. Regardons un autre fait, Genèse 15, verset 18. Genèse 15, verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Et donc, il cite toutes les tribus qui occupent ce territoire. Et il est clair que Dieu a donné un territoire compliqué parce que les habitants qui vivent là ne sont pas disposés à s'en aller. Et ont des divinités, des principes de vie, des moralités différentes d'Abraham. Mais ici, c'est différent. C'est cela que je veux dire, il y a une différence. Ce n'est pas par opportunité qu'Abraham va là, c'est par commandement divin. Et ce commandement divin, il n'est pas nécessaire de le mettre en question. C'est différent. Au chapitre 37, verset 1 de Genèse. On peut être conduit vers une situation difficile, dans une société difficile, mais sur l'ordre de Dieu. Parce que par la foi, il faudra y agir. Mais on ne peut pas y aller par esprit de prospérité, de développement matériel et d'ambition personnelle et esprit de présomption. Donc Genèse 37, verset 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Donc, il va rester là, dans le pays où le papa, Isaac, et évidemment avant Abraham, avait vécu. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un ordre divin de rester là. Comprenez ? Et c'est quelque chose qui est différent de l'opportunisme. Au chapitre 33 de Genèse, on voit que Jacob avait quatre femmes, avait des enfants, et que il va à la rencontre de Canaan, parce qu'il doit retourner sur cette terre de Canaan. Il doit retourner, c'est la terre que Dieu a donnée par définition à la lignée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et donc, il va là et il est confronté à la venue, à la présence, à la force redoutable d'Ésaü. Et surtout à la frustration, à la rancœur, la rancune, l'amertume d'Ésaü, parce qu'il s'est fait avoir par Jacob. Alors, Ésaü a l'air de ne pas trop être susceptible. C'est une apparence. Alors, Ésaü avait compris que Jacob avait envoyé plusieurs groupes de sa famille, de ses serviteurs, avec des troupeaux pour le calmer. Et Ésaü ne s'est pas trompé là-dessus. Et il dit à Jacob, au verset 8, 33 verset 8, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Jacob répondit « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Donc, à se faire pardonner. Il veut une conciliation. Et il veut échapper à la mort, parce qu'Ésaü est un dur. Ésaü dit « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. » Donc, Jacob a trouvé un apaisement, et c'est pour ça qu'il est parti dans le pays d'Édom, qui est parti dans le pays de Séir, parce qu'il avait beaucoup de matériel, beaucoup d'affaires matérielles, de prospérité. Donc il n'avait rien à envier à Jacob. Et il voyait Jacob dans l'incertitude, dans la peur. Et en même temps, il faut dire que là où Ésaü allait, dans la montagne de Téman, il y a une ville qu'on a retrouvée, qui est Pétra. C'est une ville où passaient toutes les caravanes venues d'Arabie, du Sud-Yémen, et les caravanes qui venaient du Nord. C'est un lieu de commerce énorme. Et Ésaü a pris un petit peu les rênes de cette situation. C'était une ville extrêmement prospère, qui pendant des siècles a été un lieu de passage de toutes les caravanes. Donc Ésaü, en faisant ce choix, ne perdait rien. Il investissait dans le futur. Tandis qu'il laissait les montagnes de Canaan à ses pauvres, à son frère Jacob. Donc, quelque part, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Donc, 33, verset 9. Donc, c'est une paix, parce que Ésaü n'a rien à perdre. Vous voyez que les motivations matérielles jouent énormément dans les comportements. Et que la psychologie des hommes, qui ne sont pas très, très en accord avec Dieu, ou pas du tout, la psychologie des hommes se joue sur l'avoir, se joue sur des raisonnements matériels. Cela nous pousse à réfléchir. Cela nous pousse à réfléchir. Quand vous lisez l'évangile de Luc, vous pouvez vous poser la question, pourquoi est-ce que Jésus a enseigné, par exemple, ça paraît avarant, ça paraît un petit peu, je dirais, anecdotique, sans trop de sens, mais je vous le lis, Luc 17, et tout ce que Jésus n'est pas anecdotique. Tout ce que Jésus est parole de Dieu est très profond. Donc, le Fils de l'homme reviendra. Et dans Luc 17, verset 26, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Donc il y avait une prospérité et une convivialité et en même temps énormément une vie sans Dieu. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc Jésus annonce que la situation d'une fausse paix, de d'une matérialité qui nous séduit, qui nous conduit et qui nous sépare d'une véritable communion à lui, cette situation est dangereuse pour nous quand le Fils de l'homme reviendra. C'est une situation où nous risquons d'être durement jugés. C'est ainsi qu'il faut faire attention, mes amis. Nous avons des leçons à tirer de tout cela pour nos familles chrétiennes et pour, je pense, nos vies en Église, nos projets d'Église. Il n'est pas nécessaire de vouloir se tromper soi-même. Jésus ne nous laisse pas le choix. Il est clair dans ses enseignements. C'est nous qui pouvons nous tromper. Mais Jésus ne veut pas nous tromper. Il est très clair dans ses paroles. Et la parole de Dieu est très claire aussi dans l'Ancien Testament. Donc, vous savez qu'on ne peut pas tout adorer. Mammon et l'argent. N'est-ce pas? Mammon et l'argent. C'est impossible. Et Dieu. Donc, je pense que c'est dans Luc 12. Je vais voir. Je ne le vois pas. Vous savez bien que Jésus a dit, attention, on ne peut pas avoir deux maîtres. Je ne le vois pas, peut-être que j'ai dans les notes un peu après. Alors, le principe de Dieu, c'est de nous mettre en garde sur une vie qui n'est pas dirigée par lui. Qui n'est pas dirigée par lui. Ça, c'est clair. Et nous allons continuer à réfléchir à tout cela. Voyons le cas d'Abraham, plus en détail. Dans Abraham, au Genèse, chapitre 12, vous allez voir, c'est assez spécial. Abraham, pour des raisons économiques, a un comportement bizarre, qui n'est pas digne de Dieu, et qui est indigne de son épouse. Genèse, chapitre 12. Facile de trouver les pages. Voilà. Genèse chapitre 12, versets 10 à 20. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Et considérons que tout cela est possible pour nous aussi. Considérons que cela arrive dans d'autres pays où il y a des chrétiens. Et que ce ne sera pas la première ni la dernière fois. Car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. » Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Mon âme, c'est-à-dire que je reste vivant. Hein. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Il ne refuse rien. Il ne refuse rien. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham. Sachez bien qu'il y a des devins autour de lui. Il y a des gens qui pratiquent l'occultisme, la divination. Donc il a tôt fait de comprendre très tôt, très vite, de comprendre la situation. Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi tu dis, c'est ma sœur, ou si l'ai-je prise pour ma femme? Maintenant, voici, ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Aussi, l'ai-je prise pour ma femme? Donc, je passe les détails. Il y a quand même eu quelque chose de grave qui s'est produit entre Pharaon et Sarah par l'instigation de Abraham. Pourtant, Abraham est le père de la foi. Abraham est le grand modèle des croyants. Et regardez à quel point un homme choisi par Dieu peut tomber. C'est très triste, évidemment. On peut comprendre que Jésus n'avait pas de femme. Ainsi, il n'a pas pu faire ce genre de marchandage. Regardons au chapitre 20, verset 1. Chapitre 20, verset 1. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Donc c'est une autre situation plus tard, parce qu'il y a aussi des problèmes économiques de subsistance. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur, Abimélec, roi de Guérar, donc un Cananéen, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Ici, c'est Dieu qui intervient en direct, qui se révèle et qui ordonne à Abimélec de renvoyer ce couple. Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, là ça semble plus clair, répondit, Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? Donc, on voit que la responsabilité est tout entière du côté d'Abraham et de Sarah. Le mensonge les a conduits dans cette situation. J'ai agi avec un cœur pur, avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi, c'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Donc, cet homme est prophète. Cet homme apporte la parole de Dieu. Cet homme apporte la parole divine. Cet homme est un outil de révélation divine. Et voyez à quel point l'appel de Dieu est puissant sur Abraham. Que le péché d'Abraham n'empêche pas l'appel d'exister. Que l'élection divine n'est pas ôtée à cause du péché d'Abraham. L'élection divine sur Abraham et sur Sarah n'est pas retirée. Aujourd'hui, dans plusieurs églises, on parle de la perte du salut. Mais il y a chez les chrétiens des comportements, on pourrait dire, mais c'est incroyable, c'est pas possible. Alors, il y a des doctrines qui sont apparues dans beaucoup de courants chrétiens pour dire, eh bien, puisqu'ils font ça, ils font ça, etc., et ils ont perdu le salut. Il est possible de perdre le salut. Mais, chers amis, le salut ne dépend pas du choix de l'homme. J'avais un petit livre dans les mains hier fin d'après-midi, que j'ai donné à un monsieur qui a passé une partie de la journée avec nous. J'ai choisi Jésus-Christ, de Billy Graham. Pour qu'il le lise, puis je lui demanderai son avis et je vais aborder le sujet avec la Bible pour l'éclairer. Mais beaucoup de gens pensent que, puisque j'ai choisi Jésus-Christ, j'ai répondu à l'appel, je suis sauvé. Le problème c'est ceci, dans Romains 8, il est clairement qu'il faut être appelé selon les desseins éternels de Dieu. Et donc, dans Jean chapitre 6, nul ne vient à moi si ce n'est mon Père qui l'attire. Donc l'élection, la décision de Dieu d'appeler quelqu'un au salut, c'est de Dieu, c'est pas de l'homme. Et dans Jean chapitre 14 et 15, on dit, et voilà que Jésus dit à ses disciples, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc finalement, la réalité c'est d'abord l'élection. L'élection est irréductible, elle est définitive. L'élection est une décision souveraine au ciel de Dieu sur une personne. Alors, je ne suis pas comme un certain courant calviniste qui dit, ben, ceux qui ne sont pas élus, ben, pas la peine d'évangéliser. Non, l'élection s'opère tous les jours, il y a des personnes qui ressentent et qui acceptent cet appel divin, et alors ils choisissent Jésus-Christ. Mais ce n'est pas basé sur l'émotion, sur une décision charnelle, c'est basé sur une connaissance surnaturelle d'un appel de Dieu. Une connaissance, une vérité spirituelle, Dieu m'appelle à lui, moi pécheur, je suis sauvé par grâce si j'accepte, mais je n'ai pas de mérite. Je peux répondre oui, je peux choisir après, si j'accepte cette élection. Le premier point du véritable salut, c'est l'élection. Et chez Abraham, on voit que l'élection est première, et que Abraham sera toujours prophète de Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Lisez Hébreux chapitre 11, vous verrez que Abraham est couronné pour sa foi par l'auteur de l'Épître aux Hébreux. C'est le père de la foi, dans Romains aussi, dans plusieurs chapitres. Donc, la crainte a amené Abraham à pécher, à utiliser la ruse, et pour subsister. Et finalement, il a eu la honte. La honte. Dieu lui a mis la honte, mais Dieu n'a pas retiré l'élection. Et qu'est-ce qu'il a fait? À un ennemi, il a montré dans sa grâce, il a montré à un ennemi que cet homme, Abraham et sa femme, Sarah, étaient des appelés, des élus. Il y avait donc un regard chez ce roi de Guérar, transformé par Dieu lui-même. Un regard posé. Et donc, on peut avoir des chrétiens qui parfois sont imparfaits et de l'extérieur, des personnes qui ne sont pas croyantes, sont travaillées par Dieu et regardent ces chrétiens en voyant qu'ils sont appelés par Dieu, en voyant qu'il y a une marque de Dieu sur eux. Et l'évangélisation ne repose pas sur toutes les qualités exceptionnelles des chrétiens. L'évangélisation se joue par l'action de Dieu dans la conscience des gens qui regardent les chrétiens, qui les écoutent. Et ces personnes voient à travers ces chrétiens quelque chose de Dieu qui ne dépend pas de ces personnes et de leur qualité. C'est très important, mes chers amis, j'insiste sur ces points-là. Ça ouvre de nouvelles perspectives et c'est très encourageant. Vous savez que mon sujet était l'encouragement. 1. Régler la peur. 2. Régler le problème des richesses, de la subsistance, etc. Alors, la difficulté d'Abraham, la difficulté matérielle qui l'a amené à pécher, enfin, c'est plutôt son péché qui l'a amené à pécher, dans le cadre des difficultés économiques, nous met en garde quand on est fauché, quand on a des problèmes d'argent, quand on est réellement coincé, comme on dit, de tomber dans des chemins que Dieu ne veut pas. Il faut se retourner vers Dieu. Il faut. Et bien sûr, Luc chapitre 12 nous enseigne à avoir une immense confiance dans le Seigneur. Alors, regardons dans Genèse 26, versets 1 et 7. Genèse 26, il y eut une famine dans le pays, outre... Alors, il ne s'agit plus d'Abraham et de Sarah, vous allez voir de qui il s'agit. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. Là, ça y est, il s'agit du fils Isaac. Il est confronté au même problème. Alors, ce cher Isaac... Ben oui, au verset 6, Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait « C'est ma sœur », car il craignait en disant « Ma femme », que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Nous y voilà, ça se répète à la génération d'après. Je vais dire que c'est une grande leçon. Chaque génération de chrétiens a des épreuves bien typées, bien précise. Et on n'échappe pas aux épreuves. On n'échappe pas aux épreuves. On ne peut pas rêver d'une vie cotonneuse pour nos enfants. Ils auront des situations où ils devront se préciser pour Dieu. Et s'ils sont appelés, dirigés par Dieu, si l'élection est sur eux, ils vont passer outre, évidemment. Alors, comme son séjour, Genèse 26, verset 8, comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimélec fit appeler Isaac et dit, « Certainement c'est ta sœur, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimélec dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et que tu nous aies rendu coupables. » Alors Abimélec fit cette ordonnance pour tout le peuple, « Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. » Vous vous rendez compte que quelqu'un d'extérieur, quelqu'un est conduit à prendre des décisions qui sont saines, qui sont sereines et fortes, sans pourtant connaître Dieu. Mais Dieu agit. Dieu agit à travers ce roi Abimélec. Et Dieu lui parle dans sa conscience. C'est pour cela que, dans Romains, Paul dit, évidemment, ce sont des chapitres qui sont très très importants. Romains, chapitre 2, Romains chapitre 2, voici, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux-mêmes, eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Nous voyons bien que Paul a une maturité, une sagesse extrêmement profonde, qu'il est fondé dans le Saint-Esprit pour nous éclairer sur ce qui se passe. Et c'est pour cela que les textes que j'ai pris nous montrent la vérité des affirmations de Paul, qui sont inspirés du Saint-Esprit. La mise à l'épreuve que apporte tout cela à Abraham, à Sarah, de les amener à une simplicité de vie, à marcher par la foi, à se reposer sur Dieu et à ne plus chipoter en aucune façon, à ne plus chercher des moyens humains de survivre, de défendre sa peau. Il va falloir se mettre dans la main de Dieu et y rester. Et cela est extrêmement important, chers amis, pour nous aujourd'hui et pour plus tard. Ça a toujours été important pour les vrais chrétiens nés de nouveau. Alors regardons la première épître de Timothée, chapitre 6. La première épître de Timothée, chapitre 6. C'est remarquable parce que ma femme est dans le salon, dans le fauteuil, avec un chat qui est en train de jouir de ses caresses. Un chat qui a 14 ans, qu'on appelle Trésor, mais super gentil. Et vous voyez, ce chat a l'art de se confier à nous et de faire totalement confiance. Parfois, on se demande si Dieu ne nous montre pas, par ces petits animaux, un exemple même de ce que nous devons être dans sa main. Une parabole vivante. Alors, 1 Timothée, chapitre 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain, de spirituel, de bénédiction, si vous voulez, que la piété avec le contentement, c'est-à-dire, et on va voir ce que c'est, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Alors, Paul ajoute ceci, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, alors il parle des chrétiens. Quelques-uns en étant possédés, possédés de quoi ? De l'amour de l'argent, évidemment, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'est pas Dieu qui les y a mis dans les tourments. On peut comprendre que Abraham, à deux reprises, et puis Isaac, ait eu des tourments très importants dans des situations où ils s'étaient mis. Mais Dieu, dans sa bonté, les a relevés. Et voici ce que Paul dit à Timothée, 1 Timothée 6, verset 11, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » Vous voyez, tout se repose sur l'appel. L'appel vient, se repose sur un décret de Dieu qui s'appelle l'élection, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Et vous voyez que la confession de foi vient après l'élection et l'appel. Ok ? Le processus est bien établi. Et la mise en œuvre de cette belle confession, c'est « Fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. » Quel beau trésor de vie, ou quelle vie qui est un véritable trésor, si vous voulez. Au chapitre 4, verset 8, de la même épître, première épître à Timothée, chapitre 4, verset 8, « Exerce-toi la piété. » Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une société, mais c'était déjà comme ça à l'époque des Grecs, c'était à l'époque où Timothée, etc., l'évangile s'est répandu, les Jeux Olympiques, les exploits physiques, les exploits exceptionnel qui permettait de mettre en valeur des villes, des cités par les sports, bien c'est encore la même chose aujourd'hui, c'est évident. Et tout le monde n'a de hâte de voir le confinement fini pour reprendre toutes les manifestations sportives à fond la caisse. Mais ce qu'il y a, c'est que cet amour des exercices corporels chez les chrétiens, chez les enfants de Dieu, peut leur faire oublier le véritable exercice. Le véritable exercice, le véritable travail intérieur de la piété. La piété, c'est la vie de relation avec Dieu. C'est la vie d'amour, d'adoration, d'écoute, de méditation de sa parole, de contemplation de Dieu. Et l'expérience de la présence vivante de Dieu. C'est ça la piété. Et cela dépasse tout exercice physique. Ça n'empêche pas qu'un chrétien peut être un très bon sportif, hein ? Évidemment. Je n'ai pas dit que c'était négatif. Mais ne tombons pas dans l'idolâtrie du sport, comme la société le fait, et ainsi toute la société se trompe sur l'essentiel. Mes chers amis, nous allons aller voir dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 7. Deuxième livre des Chroniques. Chapitre 7. Verset 11. Et nous allons voir une belle prière. Mais après, nous allons aborder le cas bien typé de Salomon. Mais je voudrais vous montrer que la foi était profonde chez Salomon avant qu'il chute. Et si quelqu'un a une foi profonde, une vivante, ce n'est pas pour ça qu'il ne peut pas tomber, il ne peut pas chuter. Et jusqu'où? À quel point? Ça, pour Salomon, ça a été très, très, très loin. Ce que je ne souhaite pas à vous. Dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 7, verset 11, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, donc nous sommes en 970, 970 avant Jésus-Christ. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit « J'exauce ta prière, je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand je verrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » Ce que je veux vous dire, c'est que dans la piété, dans la vie de relation avec Dieu, ce que je veux vous dire, c'est que les yeux de Dieu sont ouverts sur nous, les oreilles de Dieu sont attentives. Ne négligeons pas que Dieu est vivant, est éternel, et que Christ est ressuscité. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. J'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et donc, dans cette belle prière, je vais continuer au verset 16, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 16. « Maintenant, je choisis, je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » Chers amis, dans Éphésiens, Corinthiens, etc., dans les épîtres de Paul, il n'y a plus besoin d'une maison de pierre, comme à l'époque de Salomon. Il n'y a même pas besoin d'une basilique, d'un temple, d'une chapelle, d'une mosquée, d'une synagogue. Pourquoi? Parce que dans le Nouveau Testament, la maison, c'est mon âme, c'est mon corps. À partir du moment où j'ai vraiment accepté l'appel de Dieu, que j'y ai répondu, que j'ai accepté Jésus-Christ, et que j'exerce une véritable piété, c'est-à-dire une relation vivante avec Dieu, sincère et vraie, je suis la maison de Dieu. Dieu est là dans ma vie. Et donc, il faut faire attention, mes amis, tout le texte est beau à lire, mais je ne vais pas m'intéresser plus à l'Ancien Testament. Je prends dans Jean chapitre 5, verset 39, tout ce qui sera dit par Jésus est en référence à l'Ancien Testament. Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, à travers les Écritures, l'Ancien Testament, et bien sûr après le Nouveau Testament, il y a un témoignage qui apporte à Jésus du crédit, qui apporte à Jésus, dans mon âme, dans mon intelligence, un éclairage sur le Fils de Dieu. Et il est évident qu'il est essentiel d'admettre cela. Si on n'admet pas cela en tant que chrétien, mais on ne peut pas avoir une vie de piété réelle. Vous voyez, dans Luc chapitre 24, quand Jésus est ressuscité et qu'il est avec ses futurs disciples, ses futurs apôtres, ce sont ses disciples, mais ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, il leur enseigne beaucoup de choses. Chapitre 24, verset 25, Jésus leur dit « Aux hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, donc l'Ancien Testament, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses, qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qu'il concernait. » Ancien Testament, hein ? Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Donc, ces disciples, on les appelle communément les disciples d'Emmaüs. Ben oui, parce que c'était deux hommes qui quittaient Jérusalem, dépités, désappointés, qui partaient à Emmaüs, un village à plusieurs kilomètres de là. Bon, évidemment, Jésus agit. Au verset 31, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Donc, un cœur vivant, un cœur brûlant, un cœur éclairé par l'action de Jésus à travers sa parole, développe la vie intérieure et développe ce qu'on appelle la piété, ce sens de la relation quotidienne et vivante avec Dieu. Évidemment, je souhaite un renouveau de la vie chrétienne. Pas le falbala chrétien de l'extériorité, mais un renouveau spirituel profond. Évidemment, autrement je ne donnerai pas ces messages. Et pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui le demande, c'est pas moi. Bon, maintenant, si je prends la première à Timothée, j'y retourne. Il y a quand même, tout de même, un problème dès le départ du christianisme, dont il faut être très conscient. Première à Timothée, chapitre 6, verset 5. Ben, c'est que il y aura toujours des gens pour mettre de la pagaille, pour tromper, essayer de tromper les enfants de Dieu. Et ça, c'est compliqué. Parce que si on entend plusieurs prédicateurs, si on fréquente plusieurs églises, on se demande parfois où on doit aller, qui on doit écouter. Alors, regardez bien ce texte. 1 à Timothée, chapitre 6, verset 3. « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, une vie relationnelle profonde, intense avec Jésus, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses, des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus de l'esprit, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. » On voit donc qu'il y a des hommes qui sont enflés d'orgueil, qui ne connaissent pas Dieu, qui prétendent le connaître, mais tout compte fait, leur piété n'est qu'un petit jeu pour être une source de gain, le fric, l'argent, l'enrichissement. Cela a été horrible à travers 20 siècles de christianisme. C'est en effet, alors, pour cela qu'au verset 6, Paul dit, c'est en effet une grande source de gain, mais un autre gain, une croissance spirituelle véritable, que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans ce monde. Donc, il y a un contraste. On peut être séduit par des beaux prédicateurs et des faiseurs de mensonges, et puis ils vous prendront l'argent dans votre poche. Et puis, ils vont établir dans votre tête, dans votre esprit, des fausses doctrines, et vont vous écarter de Jésus. Et vous allez devenir leur marionnette, leur jouet. C'est pas rare. Il est plus difficile et plus rare de trouver quelqu'un qui intègre et qui prêche la parole de Dieu, et qui ne joue pas avec des affaires d'argent, et qui ne cherche pas à séduire, à égarer les esprits. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous devez rechercher une église biblique, fondée sur la parole et qui la vit, qui essaye de la vivre, parce que nul de nous n'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire à propos de la richesse ? La richesse qui est toujours quelque chose qui tourne alentour des églises. Ça, c'est clair. Quelle qu'elle soit. 1 Timothée, chapitre 6, verset 17, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Donc aux riches, mais qui sont chrétiens, de mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Donc il peut arriver que Dieu donne de l'abondance et de la richesse à un certain nombre de chrétiens, mais leur cœur ne doit pas être habité par le mensonge, il doit être habité par une espérance totale dans les richesses sûres, c'est-à-dire le Christ Jésus. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes actions, de bienfaisance, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, donc d'être généreux, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé, un véritable trésor spirituel, si vous voulez, éternel, sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Alors, je relis ces versets. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes actions, en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, donc le Christ, afin de saisir la vie véritable. Donc il n'est pas interdit d'être riche et chrétien. Il est interdit d'être séduit par sa propre richesse et de s'écarter de la libéralité, s'écarter et de devenir égoïste. Pensez dans les Actes des Apôtres, au chapitre 5, Ananias et Séphira qui mentaient et qui finalement gardaient la plus grosse partie de leur fortune dans toute une communauté de Jérusalem où tout le monde avait tout partagé. Donc ils introduisaient, ou ils voulaient en tout cas introduire, une autre dynamique, c'était le mensonge et l'amour de l'argent. Ça n'a pas pris, parce que l'autorité des apôtres, Pierre et Jean, et des autres apôtres, agit immédiatement. Mais quelques siècles plus tard, dans les églises, avec Constantin, etc., le mensonge d'Ananias et Séphira s'est développé. Et il court toujours dans les églises, il faut faire attention. La tentation de s'enrichir n'est pas neuve et il faut se faire attention. Et la tentation des fausses doctrines va avec, de la fausse science va avec. Le serviteur de Dieu, voyons, le serviteur de Dieu, c'est celui qui normalement donne la parole de Dieu, entretient la vie spirituelle des chrétiens, en tout cas les soutient, parce que c'est Dieu qui entretient la vie spirituelle. Le serviteur de Dieu, quelles sont ses qualifications ? 1 Timothée, chapitre 3, verset 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est-à-dire de responsable, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que ce responsable soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Formidable qualification. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. L'honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? C'est quelque chose de formidable. Mais il n'y a pas que le pasteur, si vous voulez, les anciens, hein, sous le nom d'évêque, épiscopos, ça veut dire scopos, c'est regarder, épis, c'est regarder autour, c'est-à-dire une forme de surveillance, de gestion de la bonne vie de l'Église. Il y a aussi les diacres, ceux qui rendent des services. Dans notre petite assemblée, il y a plusieurs diacres, hein, il y a trois diacres et diaconesses, mais ce sont des personnes réellement au service, hein. Engagé à fond. Il y a une quatrième qui a pris un an de mise à distance à cause de ses études. Il y en avait une cinquième, une personne qui, bon, sa santé ne permet plus d'exercer, d'aller en visite, etc. Son cœur et sa prière aussi sont un service. Alors, elle est toujours diaconesse dans son âme, dans son cœur. Même si cela ne paraît plus extérieurement. Alors, qu'est-ce qu'il est dit à propos des diacres et des diaconesses ? Au verset 6 et au verset 8, 1 Timothée, chapitre 3, verset 8, les diacres doivent aussi être honnêtes, éloignés de la duplicité, donc pas être double, deux faces, deux vies, deux façons de penser. Éloigné des excès du vin, éloigné d'un gain sordide, vous avez vu, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord, et qu'ensuite ils exercent leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes, donc des femmes diaconesses, de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable aux yeux de Dieu et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Voilà, voilà des clés du bon fonctionnement d'une communauté chrétienne. Les clés à mettre en œuvre et rien d'autre. Regardons dans Jacques, chapitre 5. Jacques était le cousin de Jésus, le frère, je pense, et il avait la responsabilité de la première assemblée chrétienne, celle de Jérusalem. C'est le frère. Alors, Jacques, si vous voulez, bon, prenons d'abord le chapitre 2 de Jacques. Verset 1. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acceptation de personne. Donc, on ne fait pas de différence entre les personnes. Pauvres, riches, intellectuels, manuels, peu importe. Ça, c'est le vrai drapeau français, hein, liberté, égalité, fraternité. Hein. Alors, supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Tiens, assieds-toi ici à cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre « Tiens-toi là, debout », ou bien « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied », ne faites-vous donc pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous, vous avilissez le pauvre. Nous sommes dans une première... Tout au début du christianisme, il y a déjà des problèmes, mais alors, Jacques n'hésite pas à parler. Et vous, vous avilissez les pauvres. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est Lévitique 19, verset 21, à l'époque de Moïse, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites des exceptions parmi les personnes, vous commettez un péché, vous êtes condamné par cette loi comme des transgresseurs. Alors, vous devez parler, au verset 12, et agir comme devant être jugé par une loi de liberté. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Donc, quelqu'un qui ne reste pas dans cette relation de considération profonde pour tout être humain, comme Jésus l'a vécu, est sous le jugement. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Donc une véritable vie de qualité spirituelle amène un chrétien à ne faire aucune différence à partir du portefeuille, de la voiture, du métier, de la réputation, de l'apparence extérieure et de tout le reste, de la grosseur de la maison, etc. Là, et cette miséricorde, cette action de vérité qui porte à l'amour de tous, pour les riches comme pour les pauvres, celle-là triomphe du jugement, c'est-à-dire ce chrétien qui vit comme ça, qui pense comme ça, ne peut pas être jugé et rejeté de Dieu. Parce qu'il fait les œuvres de Dieu, il fait la volonté de Dieu. Nous avons donc là des images de la vraie, le vrai appel évangélique. Et nous avons besoin d'un vrai appel évangélique aujourd'hui. En attendant le retour de Jésus. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à Salomon dans l'Ancien Testament, qui avaient reçu le don de la science, de la connaissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que son papa lui dit que la loi de Moïse doit être son point de référence. Dans la loi de Moïse, au point de référence, j'ai prêché ça hier, dimanche, en Deutéronome 17, versets 14 à 20, il est clair que le roi ne peut pas accumuler de richesses. Le roi ne peut pas s'établir sa puissance sur le nombre de chevaux, la cavalerie, etc., sur l'armée. Le roi doit compter sur la puissance de Dieu. Et le roi doit recopier la Torah, la Bible, et porter cette copie sur son cœur et la lire tous les jours. Et il ne doit pas se mettre au-dessus de ses frères. Donc pas d'esprit de présomption, pas d'esprit de domination. Et on voit bien que Jésus donne des règles de la même façon dans Matthieu, quand il dit « Vous êtes tous frères ». Personne ne peut se faire appeler maître, directeur, père, etc. Car un seul est votre directeur, c'est Jésus-Christ. Et vous êtes tous frères. C'est clair. Nous avons des principes très forts. Et ça, c'est la véritable Église de Jésus-Christ. Quand Salomon s'est écarté de ses principes que Moïse avait donné et que David lui avait dit, lui avait recommandé, il est tombé dans l'amour des femmes, l'amour des richesses, et puis il est tombé dans l'idolâtrie. Il a fait établir des temples à toutes les divinités et il a corrompu le peuple d'Israël. Il est allé très très loin. Si bien que Jésus dit de lui, dans Luc chapitre 12, que les lys des champs sont mieux habillés que lui. Oui, les lys des champs, les fleurs des champs, sont magnifiques, sont belles, elles sont sans péché. Et lui, Salomon, il a goûté au péché et il y a pris goût. Et je reviendrai dimanche prochain sur cette situation de Salomon dans ma prédication. Parce qu'il a vu clair à la fin de sa vie et il le reconnaît. Il reconnaît. Vous savez, aujourd'hui encore, et aujourd'hui et toujours, il y aura des chrétiens qui vont parfois très loin dans l'égarement. Mais Dieu est grand, Dieu est miséricordieux. Et Dieu offre un chemin pour s'en sortir, pour se redresser, pour se repentir et revenir à lui. Avec Christ, parce que Christ est amour pour les pécheurs, il n'y a personne qui est parfait. Jésus est venu pour les malportants, pour les pécheurs, et il n'a pas fait une église de parfaits. Il savait en bâtissant l'église qu'il aurait ce problème. Donc la primauté de Christ et l'action de Christ est première. Chacun de nous peut revenir à Christ et revenir, c'est-à-dire changer de vie et renoncer au péché, même s'il y est tombé. Finalement, dans l'Église, tout le monde est appelé à se repentir et à retourner à Christ. Tout le monde, sans exception. Et on ne peut juger les autres s'ils ont chuté. On doit les aider, prier pour eux et les encourager à remonter la pente, les aimer. Ça, c'est le corps de Christ. Ça, c'est la famille de Jésus-Christ. Et ce n'est pas du chacun pour soi, comme Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Voilà, chers amis, aujourd'hui, la véritable richesse de la famille abrahamique, la véritable richesse de l'Église, cette source d'encouragement s'établit dans le cœur miséricordieux de Jésus-Christ, s'établit dans la nature même de Dieu, qui doit continuellement couler dans nos cœurs, dans nos veines, dans nos âmes, et qui doit conquérir nos vies, qui sont si pauvres, parfois si imparfaites. C'est l'œuvre de Dieu que de conquérir nos vies pour les rendre saintes. Et c'est pour ça que Jésus a dit dans Jean, dans la belle parabole du cep et des sarments, « Vous ne pouvez rien faire sans moi. » Je crois, frères et sœurs, qu'avec Jésus, avec Jésus, tout est possible pour trouver cette vie sainte, cette voie royale. Soyez bénis, nous sommes lundi, à mercredi. Soyez bénis, prenez la parole de Dieu, méditez-la tous les jours et passez du temps avec le Seigneur. Car le temps ne nous appartient pas. Le temps nous est donné par lui. Encouragez-vous mutuellement les uns les autres, et moi je tiens à vous encourager. Je sais qu'il faut vous encourager. C'est pour cela que je continuerai, autant que je vivrai, ces messages. Et parfois, de continuer des contacts avec plusieurs. Que Dieu vous bénisse et à mercredi.